voyant, vu le correct
et convenable devant le Seigneur. La prière se transforme ainsi en autosatisfaction, en surestimation de soi, en gloire personnelle. Regarde, Seigneur, comme je suis devenu bien. Regarde mes œuvres honorables. Regarde ma respectabilité, mes titres, ma reconnaissance sociale et humaine. Ne suis-je pas devenu quelqu'un d'important auprès des hommes? Ne suis-je pas digne d'intérêt par mes admirateurs, par mes courtisans, par mes serviteurs? Si je suis envié et adulé, Dieu ne pourra qu'apprécier. Il sera attiré par mes réussites, par mes honneurs, par mon pouvoir, que sais-je encore. Cette illusion de croire que l'on peut séduire le Seigneur par sa démarche calculée. Le pharisien dit « Merci, ô Dieu, de ce que je ne suis pas !» Quel orgueil, quelle suffisance. Ce n'est pas l'ego qui ouvre la porte du cœur. Un ego surdéveloppé, surdimensionné, qui additionne ses bonnes actions. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus, dit le pharisien. Nous voilà dans une piété arithmétique. En multipliant les bonnes conduites, on pourra convaincre le Seigneur. On n'achète pas son salut. On ne calcule pas sa délivrance comme un prisonnier qui prépare minutieusement son évasion. Dieu seul décidera de son salut, de notre salut. On ne négocie pas une grâce, on ne marchande pas un salut. On attend humblement la bonne nouvelle du Seigneur. Mais après tout, avons-nous oublié que nous sommes, mais déjà sauvés, nous sommes sauvés. Accomplir la loi ne suffit pas. Faut-il aussi aimer son prochain, oui. Aimer, il faut aussi aimer ce voisin inconnu, aimer l'étranger, pouvoir aimer. Sans distinction, sans sélection, sans discrimination, sans préférence. Ce pharisien applique d'une manière restrictive et sélective la loi. Mais tous les pharisiens n'avaient pas cette vision étroite et sectaire de la loi. Les pharisiens étaient membres du parti religieux du judaïsme. Dans les évangiles, les pharisiens sont souvent cités presque toujours de façon négative. Pourtant, dans la pensée pharisienne, la notion d'amour était incluse dans la pratique de l'observation stricte de la loi. On aurait tort de croire que tous les pharisiens sous-estimaient ou dénigraient le principe d'amour. L'amour est un principe incontournable et omniprésent dans le Talmud. L'amour est une quête permanente aussi dans l'approche judaïque. Jésus avait été un élève vigilant de l'école du pharisaïsme. Jusqu'avant son baptême, au Jourdain, où il commence vraiment son ministère. Jésus connaissait très bien les dérives de la loi sans amour que pratiquaient certains pharisiens légalistes et conformistes. Car ce pharisien-là, dans cette parabole qui montait au temple, s'énorgueillissait d'être uniquement fidèle à la loi. Il oubliait que la rigueur et l'exigence de la règle n'empêchent pas l'amour fraternel. La foi en la loi ne s'oppose pas à la foi en l'amour. L'amour ne s'oppose pas à la loi. L'amour et la loi sont au cœur de la foi. L'amour s'enrichit par la loi. La loi trouve toute sa substance par l'amour. La foi exprime la synthèse et l'harmonie de la loi et de l'amour. L'amour, sans rigueur et sans loi, est une chimère, un leurre dérisoire. La loi sans amour devient une tyrannie, un dogme inique, un despotisme, une contrainte sans espoir. L'amour rend la loi juste, équitable et libératrice. L'amour donne à la loi sa capacité de libération, car la vraie loi libère et délivre par la nourriture intarissable de l'amour. L'amour fraternel guide la loi, alors que la loi structure l'amour. Présente-toi devant Dieu sans prétention, sans certitude, sans a priori, sans préjugé. Ce pharisien excessif et sectaire juge l'autre, les autres. Mais est-ce que Dieu nous a habilités à juger, à condamner, à rejeter ? Arrêtons la machine à critiquer autrui sans cesse. C'est si facile de critiquer l'autre, son proche, et de flatter le Seigneur. Il est ridicule d'essayer d'amadouer le Seigneur qui sait tout, qui voit tout. La vérité nous conduit à l'amour de la loi et à la loi de l'amour. Le collecteur d'impôts est aussi un autre homme de loi, personnage chargé de prélever les droits et taxes sur les marchandises. À l'époque de Jésus, le collecteur d'impôts était au service de la puissance occupante, donc de Rome. Ce collecteur d'impôts, lui aussi, avait un rapport particulier à la loi. Il respectait la situation politique de l'époque. À sa manière, il était respectueux des règles imposées par Rome. Le pharisien méprisait les collaborateurs à une puissance occupante étrangère. Mais dans le contexte de l'époque, pouvait-on faire autrement ? Qui avait raison politiquement entre le pharisien en résistance et en révolte et le collecteur d'impôts en compromis et concession pour faciliter le poids de l'occupation oppressante ? Fallait-il pour autant le haïr, le détester, le rejeter ? Ce collecteur d'impôts montait aussi au temple. Il était juif également, comme le pharisien. Nous voilà en face de deux attitudes opposées de judéens dans l'histoire de la Judée. Fallait-il composer et faire des concessions comme le collecteur d'impôts qui contribuait au maintien de l'ordre établi, ou fallait-il s'opposer et résister à l'occupant romain ? Par-delà les positions politiques du moment, par-delà les positions idéologiques de l'histoire politique des hommes et de l'humanité, nous devons passer outre et prier ensemble, et prier aussi avec ses ennemis politiques du moment au temple. Tel était le défi de l'époque entre le pharisien résistant et le collecteur d'impôts, en accommodement avec le pouvoir romain. D'ailleurs, peut-être que le collecteur d'impôts, méprisé de tous, avait honte de ce qu'il était ou de l'image de compromission difficile qu'il représentait. Alors il était torturé par sa conscience. Il n'avait pas le beau rôle. Il se présentait en Dieu en toute humilité. Faudrait-il être humilié pour connaître l'humilité ? Je ne le crois pas. Pourtant, les bourreaux sont en plus mauvaise posture pour comprendre l'acte d'humilité. Quand on a été humilié, on peut comprendre ce que c'est que d'être humble face aux arrogants. Et l'orgueilleux, souvent, humilie et s'abîme sans s'en rendre compte en humiliant l'autre. Car se détruire, c'est humilier l'autre. Le persécuteur perd son corps, son âme, en opprimant,
Voilà la terrible tragédie de l'être égaré dans son rôle vaniteux de persécuteur, en effet. Quiconque s'élève sera abaissé. Dominer l'autre, c'est s'abaisser par l'erreur fatale de l'idolâtrie du pouvoir. S'avilir dans l'illusion d'une victoire absurde et précaire. Et en effet, celui qui s'abaisse sera élevé. S'abaisser au malheur des autres, aux souffrances des faibles. Qui s'abaisse sera élevé par la force de la faiblesse, par la force de l'impuissance, par la force de l'attente, donc de la patience. Ne t'élève pas devant le Seigneur, tu seras ridicule et dérisoire. S'abaisser ne veut pas dire culpabiliser, s'humilier, mais présenter une marque profonde de respect, d'admiration et de louange au Seigneur. S'abaisser veut dire se mettre au service, et s'abaisser devant Dieu veut dire se mettre au service de Dieu. Qui s'abaisse obéira à Jésus, à ses recommandations. Qui s'abaisse sera obéissant, fidèle et confiant devant la gloire de Dieu, à lui seul la gloire infinie. À lui seul le règne d'en haut comme d'en bas. À lui seul la puissance pour le bonheur de tous dans l'éternité. S'abaisser, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. S'abaisser, c'est faire confiance au dessein de Dieu. Le collecteur d'impôts se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Même si l'on peut parler d'égal à égal avec le Seigneur, l'impertinence et l'arrogance n'ont pas leur place. La prière n'a pas à se transformer en blasphème. La colère envers Dieu, pour ses absences inexplicables, ne justifie ni les injures, ni les insultes sournoises contre le Seigneur. S'abaisser, c'est accepter les décisions incompréhensibles de Dieu. C'est accepter son destin, sa mission, et le plan parfois irrationnel de Dieu pour moi. Mais faut-il chercher à comprendre, à expliquer, à argumenter? Tout n'est pas explicable. Je m'abaisse par modestie, car je ne comprends pas tout. Je suis si souvent dépassé par les événements. S'abaisser, c'est reconnaître la valeur de l'autre, sa richesse insoupçonnée, sa tragédie, avec toutes les leçons de la vie que l'autre nous donne sans retour. S'abaisser, c'est faire acte d'amour, car celui qui s'élève n'aime que lui-même. La vérité ne se situe pas dans la construction de sa gloire, une gloire futile, illusoire et injuste. Ceux qui s'abaissent sont dans la vérité comme Jésus. S'abaisser pour vénérer le Seigneur notre Dieu, le vrai roi des rois de pacotille de l'humanité. Ce n'est pas à nous, religieusement, de décider de notre élévation spirituelle. Seul Dieu décidera du niveau de notre élévation. Certes, nous sommes responsables, mais nous n'avons pas le pouvoir de nous auto-accorder la grâce. La suffisance spirituelle est une marque de vanité, contraire au principe d'amour et de générosité spontanée. Mépriser l'autre est un signe de pauvreté spirituelle. Acheter l'autre est un signe de perversité spirituelle. Mais accompagner l'autre, l'accueillir, l'écouter et le reconnaître, le protéger, ne représente que la simple expression d'un devoir juste et équitable. S'abaisser, c'est se mettre au niveau du regard de l'autre, sans être un donneur de leçons, comme expression de la beauté lumineuse de la loi de la juste parole qui délivre, la loi de la sincérité. À quoi cela sert-il de tricher avec le Seigneur? Présente-toi devant la face de Dieu telle que tu es. La prière sera un moment d'honnêteté, d'intégrité, d'impartialité, de vérité avec soi-même, avec les autres, avec Dieu, avec le monde. Il ne s'agit pas de s'humilier, mais de se présenter sans artifice, sans masque, sans plaidoirie, sans avocat pour sa défense. Jésus est déjà notre grand avocat, perpétuel, uniquement pour le meilleur de nous-mêmes. Il voit en nous ce qu'il y a de mieux. Il sait nous mettre en valeur. Il nous aide à nous découvrir. Jésus nous aide à découvrir notre dignité, notre identité, notre chemin vers la lumière, notre parole d'homme vrai, bon et juste, habité par sa promesse d'éternité, de bonheur et de justice fraternelle. Lui qui a cru être abandonné sur la croix ne nous abandonnera jamais. Qui s'abaisse sera éternellement accompagné par Jésus notre Seigneur. Il nous délivrera de nos souffrances, de nos malheurs, de nos regrets. Dès maintenant, dès à présent, pendant l'attente de la promesse, s'abaisser signifie que l'on oublie un peu la question de son salut qui cacherait les angoisses de notre nombrilisme spirituel. Le but de sa vie de foi est de célébrer la gloire de Dieu. Notre vie, nos paroles, nos actes, nos projets ont pour but ultime la seule gloire de Dieu. Nous ne sommes pas sur terre pour nous sauver nous-mêmes, mais pour sauver les autres, reflet de l'image de Dieu, pour sauver la gloire de Dieu auprès des hommes de la terre. Je dois aussi pouvoir prier, non pas que pour moi, mais je prie pour la vie, je prie pour la victoire de la vie éternelle, la victoire du bonheur donné par une grâce imméritée et inconditionnelle. Il ne s'agit pas de se croire juste, mais de savoir que Jésus est juste, a été juste, et qu'il le restera pour la fin des temps. Ne soyons plus imbus de notre personne. Ne soyons plus esclaves de notre ego, de nos jugements. Laissons la place à l'Esprit Saint, l'être rempli de lui. Même l'être rempli de lui-même n'ouvrira pas son cœur et l'Esprit de Dieu ne pourra pas le nourrir d'une eau fraîche de la source de la vie. Parce que trop plein et gavé, l'homme pécheur dépérit sous le poids de ses mépris, de son égoïsme et de sa dureté. Vis de toi, de ta souillure, et l'Esprit Saint te donnera une eau pure et légère, de l'innocence, donc de la beauté retrouvée. Qui s'abaisse verra la beauté du trône glorieux de Dieu. Qui s'abaisse sera transfiguré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour l'éternité. Amen.